Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo et Drieux-Combaluzier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
Bonjour à tous, bienvenue au pavillon Dauphine pour les grands rendez-vous de l'UNIS avec Radio Imo. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Olivier Safar. Bonjour. Vous êtes alors prenez votre micro.
Oui, ça sera mieux. Bonjour Périgny, ça sera mieux avec le micro, absolument.
Président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, juste à côté de vous, Lionel Cos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député des Landes et vous êtes aussi président du Conseil national de l'habitat. À votre droite, Olivier Principal, bonjour.
Bonjour Bernice Deville.
Vous êtes le président de la FNAIM Grand Paris et à côté de moi, Sylvain Grataloup, bonjour.
Pardon. Oui, bonsoir.
Vous êtes le nouveau président de l'Union nationale de la propriété immobilière, donc l'UNPI. Hein,
qu'on Absolument,
connaît,
l'UNPI.
On connaît très bien. Et monsieur le maire Stéphane Raffali, bonjour.
Bonjour.
Donc maire de Ris-Soringis et aussi conseiller départemental de l'Essonne, ainsi que vice-président du Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Alors, vous avez tenu une table ronde, messieurs, sur l'avenir du parc locatif privé. Il s'est dit beaucoup de choses. On va peut-être faire un petit point pour résumer avec vous, Olivier Safar, donc sur la conjoncture du secteur.
Alors, on a abordé de nombreux points. On est surtout tous d'accord sur une chose, c'est qu'on traverse une crise aujourd'hui, qui est une crise à la fois conjoncturelle et structurelle, et dans lequel on est tous d'accord pour demander à ce qu'on mette en place des plans de programmation sur la partie immobilière de 5 ans ou 10 ans, moi je suis volontaire pour 10 ans, pour que donner une vision du logement sur le long terme. Parce qu'en matière immobilière, c'est pas en un an ou en deux ans que ça se passe toujours en 10 ans en moyenne. Et ça, sur ces points-là, on est tout à fait d'accord. En revanche, comment on doit le mettre en place dans certains cas ou dans certaines choses, il peut y avoir des dissensions, mais le but du jeu, effectivement, c'est d'arriver à donner envie à nos clients de rester propriétaires, d'avoir effectivement des biens à gérer et surtout à donner en location pour améliorer effectivement la demande de logement. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont besoin de se loger et ils ne trouvent pas de logement.
Alors, c'est ce que vous constatiez, hein, Olivier Principal également, vous avez commencé par ça. Et donc, le marché de la location est grippé. Le marché des transactions est grippé également.
Alors, celui des transactions est à l'arrêt complet. Celui de la location est grippé. Il tourne légèrement, mais faiblement. C'est-à-dire qu'en réalité, on a très peu de rotation dans les appartements en location. Auparavant, vous aviez quelqu'un qui quittait son appartement en location pour aller acheter un appartement.
Un primo-accédant.
Oui, primo-accédant, ou même quelqu'un qui était en locataire et qui finalement va devenir propriétaire parce qu'il a envie d'acheter. Il était déjà propriétaire auparavant, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus ces mouvements, on n'a plus cette évolution, on n'a plus cette demande sur de l'achat. Pourquoi ? Parce qu'elle est bloquée de l'autre côté et il se passe rien. Et donc, globalement, quand vous ne pouvez pas bouger, vous restez dans votre appartement, vous ne donnez plus congé. Donc, automatiquement, on va gripper le marché locatif.
Donc, vous représentez, hein, Olivier Safar et Olivier Principal, les professionnels de l'immobilier en Île-de-France, principalement. Comment ça se passe un petit peu hors Île-de-France, je m'adresse à vous qui êtes lyonnais. Comment ça se passe, par exemple, à Lyon ?
Alors, j'enlève ma casquette de président national pour prendre celle du président de Lyon. À Lyon, on vit un petit peu la même chose, parce qu'aujourd'hui, pour se loger, c'est juste un enfer. C'est extrêmement compliqué. Ce sont des mois et des mois pour trouver un logement. Lorsqu'une annonce paraît le matin, il y a immédiatement, fin de journée, 200-250 propositions. Ce qui est un peu gênant, c'est que au mieux de tout ça, celui qui sera choisi, c'est celui qui sera le plus solvable.
Les
meilleurs dossiers. Donc, quand on veut essayer de... On parle de logement abordable et abordable pour tous. Là, on a manifestement quelque chose qui est un peu compliqué. Et puis, du point de vue des propriétaires, il n'y a rien d'encourageant si on reste à Lyon et à la métropole, puisque viennent se conjuguer, d'une part, un encadrement des loyers, qui n'est pas très, très bien fait, et d'autre part, une augmentation de la taxe foncière. Donc, si on met en lien les deux, ce qui est une des préoccupations du bailleur, on aboutit à des revenus locatifs qui diminuent. Alors, la rentabilité baisse, mais ce n'est pas vraiment la préoccupation des bailleurs aujourd'hui. C'est comment faire pour que ces revenus locatifs permettent de soutenir un pouvoir d'achat qui est déjà un petit peu abîmé dès l'instant où on arrive à une retraite et des pensions qui ne sont pas extraordinaires.
Alors, c'est vrai que vous représentez les propriétaires, alors principalement les propriétaires bailleurs. Ainsi que les propriétaires de leur résidence principale. D'ailleurs, en parlant de l'UNPI, quel est l'avantage à devenir adhérent de l'UNPI quand on est propriétaire bailleur ?
Mais tous les propriétaires devraient être adhérents à l'UNPI. Bien évidemment, c'est gentil, là, vous n'étiez pas préparé, mais c'est très gentil.
Non, mais ça, j'y pense.
Non, mais bien évidemment, je crois que on a tous ici, ou bien clients, ou bien adhérents, les mêmes personnes, des propriétaires. L'approche n'est pas tout à fait la même. Il y a ceux qui s'en occupent d'un point de vue professionnel. Je ne vais pas plaider pour leur cause et la cause des professions, même si je la soutiens. C'est à la fois, en tout cas, un accompagnement dans un maquis législatif qui est phénoménal. Et puis, en matière de fiscalité, là aussi, parce que chaque année, il y a des taux qui changent. Il y a de nouvelles manières d'appréhender une déclaration fiscale.
Avec un gros matraquage cette année.
Bien évidemment, particulièrement cette année, mais qui a commencé il y a de nombreuses années. Et puis, bien évidemment, ce rôle, et c'est le rôle du national, c'est de porter auprès des pouvoirs publics des préoccupations qui sont celles de tous les Français. Hein, parce qu'on raisonne en disant que les propriétaires sont peut-être un petit peu particuliers, mais la plupart des Français sont propriétaires. Et ceux qui ne le sont pas rêvent d'être propriétaires. Et aujourd'hui, ceux qui le sont se demandent s'il faut rester propriétaire, et ceux qui ont envie de l'être n'arrivent pas à l'être. Parce qu'il y a des blocages qui sont des blocages bancaires, qui sont enfin tous ces mécanismes-là. Donc, je crois que la crise est conjoncturelle, comme on le dit, mais bien au-delà, elle est structurelle. C'est l'instant où les propriétaires ne savent plus aujourd'hui quelle position prendre dans les prochaines années. Acquérir un bien, ça peut se faire en 6 mois ou en 1 an, mais simplement, il ne se fait pas pour 6 mois ou une année. Il se fait pour du long terme. Et là, on ne sait pas justement sur les 10, 15 prochaines années ce qu'il en sera. Donc ça, je pense que c'est une part de la responsabilité de l'État que de ne pas arriver à très clairement se positionner pour emmener la population française dans une direction qu'on peut ne pas partager. Après, c'est une discussion idéologique ou autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. Et à mon avis, dès qu'il y a l'urgence, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Donc je crois qu'il faut retrouver un peu de distance, un peu de réflexion et se dire, voilà, où est-ce qu'on veut emmener les Français dans les 30 prochaines années? Que veut-on de la France et que veut-on de ceux qui y habitent?
Selon vous, on s'éloigne de la France de propriétaires voulue par Nicolas Sarkozy?
Non, on ne s'éloigne pas. En tout cas, on oublie que la France est une France de propriétaires depuis toujours. Il y a peut-être des choses à réinventer. Il y a peut-être à innover aussi dans la forme de propriété. De temps en temps, il y a des petites tentatives. Je pense au bail réel solidaire, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester dans ce schéma-là. Il faut inévitablement envisager une réflexion sur du long terme. C'est inévitable.
Monsieur le député, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre quand c'est vrai qu'on entend que tout le monde, tous les professionnels veulent une politique plus stable, une politique plus durable du logement?
Écoutez, je suis très attentif, bien entendu, à tout ce que j'entends de la part des professionnels. Je pense que c'est important aussi quand on est élu. Et oui, je partage qu'aujourd'hui, on a un moteur qui est à l'arrêt. Alors déjà, ce qu'il faudrait savoir avant d'y mettre du carburant, c'est savoir ce que doit faire le moteur, à quoi il doit servir et où il doit nous amener. Donc effectivement, c'est tout ce projet de politique de logement au niveau national.
Gouvernement à ce sujet.
Je me suis souvent exprimé pour dire que oui, je pense qu'il nous faut une politique nationale. Alors après, on peut la discuter, bien entendu, mais il faut qu'elle existe parce que sans celle-là, on ne pourra pas, je dirais, définir les outils après que l'on mettra en œuvre et on ne pourra pas savoir vers où on va et ce dont les Français ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que les Français ont des besoins en termes de logement et c'est normal et c'est légitime et c'est important et c'est même vital, mais que les réponses que nous apportons ne permettent pas de satisfaire ces besoins. Certes, nous avons 60% de Français qui sont propriétaires, 40% qui sont locataires et qui ont certainement, pour beaucoup d'entre eux, envie d'acquérir un bien, parce que le logement, aujourd'hui, pour les Français, c'est bien sûr une approche, on peut avoir une approche patrimoniale, on peut avoir une approche fiscale, on peut avoir une approche sociale, c'est-à-dire qu'en fonction du type de logement, du quartier dans lequel on vit, on peut se sentir, voilà, c'est aussi quelque chose d'important pour beaucoup de Français. Et ensuite, une approche émotionnelle, c'est-à-dire que c'est là où on élève éventuellement des enfants, où on vit, où on partage des choses, et maintenant même où on est de plus en plus souvent amené à travailler. Donc ces besoins-là aujourd'hui ne sont pas du tout identifiés. D'ailleurs, personne, tout le monde parle des besoins des Français, mais personne ne sait dire quels sont les besoins réellement identifiables des Français en termes de logement. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que tout le monde a envie d'avoir 300 mètres carrés dans le 16e à Paris. Ce n'est pas forcément un besoin. Voilà, donc bien définir quel est le besoin et quel est le type de logement.
Déjà en avoir un.
Déjà en avoir un. Et donc,
effectivement, il y a beaucoup de Français qui travaillent, qui n'ont pas de logement.
Bien sûr que le logement, l'hébergement d'urgence, le logement effectivement pour le sans-abrisme est important. On le sait surtout au territoire, sur le mien aussi, où j'ai des saisonniers l'été, mais pas que l'été, tout au long de l'année, où j'ai des gens, pas des jeunes, mais pas que non plus, beaucoup de femmes aussi, seules ou avec des enfants, qui se retrouvent à la rue. Quand j'étais maire, j'avais créé un hôtel social sur ma commune. C'est pas pour rien. Je peux vous dire qu'il était rempli à plus de 100% et que oui, il faut bien entendu s'occuper de celles et ceux aujourd'hui qui n'ont rien du tout. Mais après, il faut qu'on avance. Il faut que le parcours résidentiel reprenne du sens. Il faut que le parcours résidentiel fonctionne dans notre pays. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Et pour pouvoir refonctionner, il faut qu'on redonne confiance à tous les acteurs. Il faut qu'on arrive à convaincre à travers des outils et à travers justement cette volonté de dire qu'on y croit et que c'est bien d'investir, qu'on a besoin aussi des investisseurs privés, des particuliers, pas que des institutionnels, pour relancer la machine. On a besoin de tout le monde. On a besoin des collectivités, de l'argent public, on a besoin des bailleurs sociaux, on a besoin des institutionnels, on a aussi besoin des particuliers, parce que une politique logement sur un territoire, pour pouvoir sortir des opérations globales et des opérations de la durée, on a besoin de tout le monde. Tout est très, très lié. Ça, c'est un point, je pense, qui est essentiel. C'est très lié. On a besoin vraiment d'avoir tous ces investisseurs, quel que soit le type, pour pouvoir sortir des opérations dans la durée sur un territoire. Alors après, on peut dire, sur certains, il faut plus de social, moins de social, d'autres plus d'accession, etc. Ça, c'est une approche territoriale. Mais l'approche globale, elle doit être définie par une politique nationale.
Monsieur le maire, un petit mot peut-être sur votre ville, on va faire le point sur les logements, ce qu'il en est, et vous avez parlé de quelque chose de très intéressant et de très important, c'est l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que c'est problématique dans de nombreuses communes, ce problème qu'il y a entre la distance, entre le logement et le travail, qui est parfois très long, qui est mal desservi. Qu'en est-il
Oui, depuis la libération de l'économie, ça fait à peu près 40 ans que l'économie est financiarisée, on constate des phénomènes qui affectent notre géographie et notre manière d'organiser nos territoires avec des phénomènes de gentrification, c'est-à-dire de concentration de richesses dans l'hypercentre des métropoles. C'est vrai en France, c'est vrai en province, c'est vrai dans la métropole parisienne, mais c'est vrai aussi dans les grandes métropoles mondiales. Donc concentration des richesses au centre, désindustrialisation, et donc vous avez une partie des territoires qui aujourd'hui sont désertés et où on constate l'absence des aménités essentielles au fonctionnement d'une ville, puisque un logement n'a une valeur que s'il a l'ensemble des services à proximité. Évidemment, l'école, l'université, les transports. Et on constate que les pouvoirs publics nationaux, notamment, qui ont ces compétences régaliennes, ont abandonné des stratégies nous permettant d'avoir des plans sur l'ensemble du territoire, et ce qui crée évidemment des fractures de cohésion qu'on constate à la fois dans les votes, mais aussi dans l'expression, comme l'expression des Gilets jaunes, par exemple.
Je crois que l'exemple le plus frappant est Marseille.
Marseille, les Gilets jaunes, les émeutes des banlieues, etc. Vous avez des phénomènes sociaux extrêmement violents qui nous renvoient à cette absence de cohésion nationale. Et je pense que la question du logement est directement liée à la question de l'aménagement du
territoire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, concrètement, vous qui êtes sur le terrain ?
Il faut un retour de l'État dans ces questions. Moi, j'aménage plusieurs sites sur l'agglomération Grand Paris Sud, sur du foncier public, puisque ce sont des villes nouvelles. Les opérations d'aménagement payent le foncier public. Les élus locaux versent des subventions d'équilibre pour les grandes opérations d'aménagement. Et c'est les opérations d'aménagement qui payent les cadres de l'État qui travaillent dans les grands aménageurs publics. Bref, l'État ne met plus un euro dans l'aménagement du territoire. Il faut absolument que le foncier public, les établissements publics de l'État se remettent au travail avec les moyens de l'État. Je pense que, sans évidemment faire référence à cette grande institution qui était la DATAR, puisqu'on est à l'ère de la décentralisation, on est à l'ère de la transition écologique, il faut tout de même qu'on ait une vision à l'échelle de l'Hexagone nous permettant de retrouver en fait une forme de cohésion qui était celle autrefois qui était exercée sur notre territoire national.
Lionel, peut-être une toute petite réaction à ce sujet.
Sur l'aménagement du territoire, je partage complètement. C'est un sujet qu'on a, depuis les années 1980, les lois de décentralisation complètement abandonnées. Moi, je milite dans la réflexion qu'on aura en 2024 sur la territorialisation des politiques de l'habitat pour que, bien sûr, on regarde le côté décentralisation, mais aussi déconcentration. Et je pense que l'État doit être beaucoup plus présent sur nos territoires à travers aussi la déconcentration. Il faut parler de ce sujet et la déconcentration qui me semble évidente au moins pour deux aspects. Le premier, c'est l'accompagnement sur l'ingénierie territoriale parce qu'aujourd'hui, on est en perte de vitesse et je vois beaucoup de maires, beaucoup de locaux qui ne savent pas et qui ne sont pas suffisamment accompagnés pour savoir comment ils doivent développer leur commune et vers où ils doivent développer leur commune. Et le deuxième, bien sûr, c'est sûr. Alors, le contrôle, c'est peut-être pas le mot juste. Il faudra peut-être retravailler un autre mot. Mais en tout cas, s'assurer que les objectifs qui sont donnés sur les territoires aux élus locaux soient atteints. Parce qu'on a vu aussi dans le passé, quand on voit la loi SRU, on le voit aujourd'hui avec la loi ZAN aussi, que souvent, on peut voter des lois, donner les compétences aux locaux pour les appliquer et que c'est pas toujours, on n'est pas toujours non plus, je dirais, au rendez-vous. Voilà. Donc, l'État doit revenir sur le territoire pour accompagner et être sûr qu'on puisse avancer et atteindre nos objectifs.
Une autre problématique majeure, c'est l'augmentation des loyers impayés. Alors, on a constaté, il y a des chiffres qui ont été donnés il y a 10 jours concernant les loyers des bailleurs sociaux. C'est passé de 3% à 10% hein, d'impayés. Voilà, c'est des chiffres quand même assez alarmants. Hein. Olivier Principal, qu'est-ce que vous constatez dans la région parisienne concernant ce... Alors, hors logements sociaux. Hein.
Oui, bien sûr, je ne vais pas vous parler du logement social. Mais effectivement, on note quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment. C'est une augmentation significative de l'impayé, qui est d'ailleurs caractérisée d'abord par les problématiques de régularisation de charges dans les copropriétés liées à l'augmentation du coût de l'énergie. Ça, c'est évident.
Et la fin du bouclier tarifaire.
À la fin du bouclier tarifaire, on a une augmentation du coût de l'énergie dans les logements. Donc, il y a des arbitrages qui se font. On l'avait dit, on l'avait prédit. Hein, les arbitrages auront lieu d'abord sur le montant du loyer et des charges. Donc, ça existe. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner mieux les propriétaires dans des systèmes de protection qui leur permettront de continuer à faire vivre leur investissement locatif ou leur patrimoine s'ils veulent le transmettre en bon état grâce à des systèmes type assurance loyer impayé pour protéger.
C'est ça la meilleure protection. Il y a quoi d'autre comme protection?
Ah bah aujourd'hui, la première protection, c'est de se faire accompagner par un professionnel de l'immobilier. C'est pas
ça, on est tous d'accord. Il y a aucun doute là-dessus.
Voilà, je pense que c'est important pour faire les choses de manière respectueuse de la réglementation et en optimisant son patrimoine.
Donc ça rappelle un professionnel qui fait de la gestion locative.
Exactement, un administrateur de biens qui va faire l'intermédiation, qui va vous décharger de l'ensemble des contraintes et qui va proposer tout un tas de solutions qui vous permettent de sécuriser votre patrimoine, y compris les loyers impayés. Enfin, si vous voulez me faire réagir un peu sur la politique du logement, vous pouvez quand même dire un petit mot. Et je suis très heureux d'être à côté de Monsieur le Président.
Je m'y attendais.
CNH, puisque j'ai le plaisir de siéger avec lui là-bas. Moi, ce que je voulais dire, et ça n'a rien à voir avec le CNH, que je trouve que le Conseil national de l'habitat a ce gros avantage aujourd'hui d'être l'organe qui permet de faire fuser l'ensemble des propositions qui viennent aujourd'hui au plus proche du ministre du Logement et des députés, donc c'est une très bonne chose et je suis très heureux que ça soit incarné par quelqu'un d'ouvert comme Lionel Causse, parce que on peut ne pas être d'accord, mais tout du moins on discute, on débat et on avance. Et je voulais quand même dire que je pense que au niveau des pouvoirs publics, il y a un vrai sujet de décrochage politique. On le sait bien, notre président n'aime pas l'immobilier, mais je pense qu'il y a un sujet d'incitation. On est trop dans la contrainte. Aujourd'hui, on est dans la contrainte permanente, contrainte réglementaire, contrainte fiscale, alors qu'on pourrait faire porter l'élan de la rénovation énergétique ou de l'investissement immobilier derrière de l'incitation. À travers le CNH, on a l'avantage de pouvoir travailler dans des groupes de travail, et je ne vais pas dévoiler les aides, mais on parle du statut du bailleur privé, hein, dont beaucoup parlent depuis un moment, le statut du bailleur privé avec une vraie refonte du système fiscal du bailleur privé. Et moi, je milite pour une incitation. On parle de maîtrise des loyers. Maîtrise des loyers, on nous parle d'encadrement des loyers. Mais pourquoi ne revenons pas sur le côté de la fiscalité, avec une incitation fiscale, plus les loyers sont bas et plus le bailleur est incité fiscalement à faire.
Plutôt qu'interdire
ou d'encadrer. Pourquoi la rénovation énergétique, on l'embarque pas avec les propriétaires qui sont les plus engagés pour aller bien plus vite que le calendrier qui nous est fixé? Pourquoi on ferait pas aussi des abattements forfaitaires majorés? Parce que certains propriétaires ont eu plus de courage, sont lancés plus vite. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi par le biais de la fiscalité qu'on arrive à protéger. Et il y a un moment donné, on a essayé de rééquilibrer le rapport locatif. Tout à l'heure, on parlait de la loi sur les charges locatives. Ça fait 40 ans qu'on en parle. À un moment donné, quand est-ce que ça va sortir, nom de Dieu ? Donc voilà, il y a des sujets, il faut qu'on avance. Et en tout cas, je sais que c'est des sujets qu'on portera en CNH. Mais je vois que Monsieur Lionel Causse...
Monsieur le député, c'est ça, s'échauffe.
J'ai une petite question.
Concernant les récompenses pour les meilleurs élèves, notamment à la rénovation énergétique, même si je sais ce que vous allez répondre, mais une petite réaction ?
Surtout ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'outils. Olivier vient d'en citer quelques-uns parce que les loyers, je dirais majorés, on avait le Pinel, on a Loc Avantage, on a beaucoup de choses. Mais à chaque fois, on ne veut pas que ces outils se multiplient et deviennent de vraies, je dirais, locomotives. On a le sentiment qu'à chaque fois qu'on sort des outils, c'est pareil côté bancaire, hein, parce qu'on a les COPTZ, on a beaucoup de choses pour accompagner aujourd'hui, y compris sur la rénovation. Celles et ceux qui doivent y aller, tout existe aujourd'hui, mais on a l'impression que tout est freiné. Et qu'on n'arrive pas à
tout existe, mais c'est quand même compliqué.
Tout lancer. Mais c'est compliqué parce qu'on veut pas le lancer et ça relève pas forcément du législateur ou je dirais du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui pourraient se développer de façon beaucoup plus forte sur le territoire. Voilà. C'est juste une petite remarque que je voulais faire.
Sylvain, est-ce que vous avez l'impression que tout existe, justement, côté propriétaire pour la rénovation énergétique?
Pour la rénovation énergétique, on va y venir dans un instant, mais en fait, j'ai l'impression que le gouvernement me fait penser à une famille qui est débordée et qui, à un moment donné, parce qu'elle est submergée, est obligée d'interdire tout parce qu'elle n'arrive plus à faire face. Je crois vraiment que le gouvernement est submergé par tous ces changements, comme peuvent l'être l'ensemble des Français sur plein de choses. Tout va très vite, la numérisation, tout change. Et à un moment donné, on a un sujet qui doit s'inscrire sur de long terme et il ne peut répondre que par l'urgence parce qu'il est submergé. Donc à un moment donné, il faut se poser, arrêter peut-être de prendre des mesures, celles qui existent, de peut-être les aménager et de s'inscrire effectivement sur une réflexion avec une commission qui puisse être composée de tous ceux, de tous les acteurs qui sont concernés, et puis ensemble, on construit un projet. Ce n'est pas du tout ça pour l'instant, et le jour où le gouvernement le comprendra, peut-être qu'on aura fait un premier pas.
Alors, voilà. Moi, le premier pas, je l'ai vu. Quand le CNR Logement a été créé, je me suis dit, voilà une bonne nouvelle. On crée 3 commissions spécifiques, on intègre des professionnels de l'immobilier, on intègre effectivement des députés, des sénateurs et des pouvoirs publics. Très bien. On est arrivé à écrire un nombre de textes et de propositions qui nous semblaient raisonnables, permettre de relancer les choses. Et on s'était dit, ben oui, ça va prendre 6 mois ou 7 mois ou 8 mois. On a démarré au mois d'octobre, on est arrivé fin avril avec des propositions. Le bouquin, il faisait quand même pratiquement 250 pages ou 260 pages, je me souviens plus. Mais globalement, il y avait des propositions. On s'était dit, bah, dans ces propositions, il va en sortir probablement une loi au mois de septembre-octobre qui va nous permettre d'avancer sur du long terme, sur un plan de programmation. Et globalement, bah, aujourd'hui, rien. Plouf. Je ne veux pas dire autre chose. J'ai l'impression qu'on a bossé tous et on était dans des groupes de travail différents pendant pratiquement 8 mois ou 7 mois pour arriver à donner des feuilles de route, des informations, des solutions, des points à mettre en place sur un programme pour obtenir rien. Et c'est malheureusement l'impression qu'on en a aujourd'hui.
Lionel Causse, une petite réaction. C'est vrai que ce CNR avait fédéré tous les acteurs.
C'était formidable sur le travail qui a été réalisé. Vous savez, à la fin du CNR, j'avais pris une image, j'avais dit on a une maison avec plein de pièces. La première ministre a ouvert toutes les portes, mais maintenant toutes les pièces sont vides. Il va falloir les remplir, mais par contre, il ne faut pas mettre un tabouret dans chaque pièce. Il faut bien les meubler. Mais on en est là aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, les mois passent et que pour l'instant, les pièces sont encore vides. Mais par contre, effectivement, tout a été mis sur la table et je crois qu'il faut reconnaître le travail qui a été fait. Alors, moi, en tant que président du CNH, je vois l'avantage du CNH, c'est que ça, on peut travailler dans la durée. Donc, on va pouvoir reprendre ces travaux, on va pouvoir continuer et essayer de faire en sorte, justement, que meuble par meuble, on arrive à faire en sorte que ces pièces soient habitables.
Olivier Principal, peut-être pour terminer, comment vous remeubliez cette maison ?
Moi, je commencerai à fermer les portes, parce qu'avec la rénovation énergétique, il faut qu'on se mette quand même sur quelque chose d'un peu sérieux. Non, mais je pense que tout est dit. On a un élan formidable entre les professionnels et un grand nombre d'acteurs publics. Et je pense qu'il nous manque l'écoute du gouvernement. Le travail va passer par le travail parlementaire, les sénateurs. On va reprendre la politique comme on l'a connue par le passé, hein, sur le terrain. Et ensemble, on arrivera à construire, à mon sens, la solution qui nous manque. Mais il va falloir qu'on aille vite parce que la crise qui est vécue par nos concitoyens dans la rue, c'est aujourd'hui. Et on n'a pas le loisir ou le luxe de se permettre d'attendre encore. Et avançons.
On n'oublie pas le travail des élus locaux aussi, monsieur le maire, hein, peut-être avant de terminer.
De la même façon, moi, sur un territoire de 350 000 habitants, je crois qu'on a enregistré 22 000 demandes de logement. Et on est en capacité, alors on parle du parc social là, mais c'est le même sujet, on est en capacité d'en satisfaire à peine 8% par an. Évidemment, le stock ne désemplit pas. Donc cette demande sociale, elle est extrêmement présente. Maintenant, il faut arriver à la conjuguer avec des impératifs de trajectoire écologique, la question des passoires thermiques, la question du zéro artificialisation. Il faut arriver à démontrer qu'en réalité, l'écologie n'est pas l'ennemi de la prospérité et n'est pas une limite systématique, n'est pas une sanction. Et je crois qu'on peut y parvenir. On a par exemple un stock considérable de biens déjà construits qui ne remplissent pas leur office, qu'on pourrait transformer. 8 millions de biens sous-occupés,
alors,
3 millions de biens vacants.
Alors, moi, je n'ai pas les mêmes chiffres concernant les logements vacants.
Non, sur les logements vacants, il y a 3 millions de logements vacants, 1 million de manière certaine, sur une longue durée, et 2 millions qui sont en friction, c'est-à-dire qui sont en période de vacances et dont on ne sait pas s'ils resteront ou pas en vacances. Mais il y a tout de même 3 millions. Et il y a des milliers de mètres carrés de bureaux, comme il y a des milliers de mètres carrés de terrain en friche déjà abîmés et qui pourraient recevoir des projets d'aménagement de grande ampleur.
Voilà, je vous suis beaucoup plus sur les friches et sur les terrains réaménagés ou les casernes ou autre chose que sur le nombre de logements vacants. En réalité, on a des logements vacants parce que vous avez une partie qui est en attente de faire réaliser des travaux. Donc, vous avez toute cette partie de friction. Mmh. Et puis ensuite, vous en avez certains que vous qualifiez de vacants, alors que ce sont des résidences secondaires dans certains cas ou des résidences de tourisme pour d'autres cas qui ne sont utilisées que pendant une période courte de l'été ou de l'hiver dans les stations. Il y a les deux.
Oui, parce que selon les chiffres de Clameur qui sont trouvés il y a deux semaines, c'est 165 000 logements vacants. Pas plus en France, donc ça ne résoudrait pas le problème. Après, c'est vrai que concernant les friches, là, il y a quelque chose ou les bureaux vacants. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour cette table ronde. Et puis, eh bien, on se retrouve tout de suite sur Radio Immo.
Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo et Drieux-Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Immo.